Bonsoir, merci d'être là. Vous ne vous étonnerez pas de ce ton familier, je ne sais même plus depuis combien d'années on se connaît. Ça doit toucher les 50 ans. Oui, c'est ça, ça doit avoisiner les 50 ans. Donc on a roulé nos bosses dans des camps différents ou voisins pendant fort longtemps. Et je souhaitais que Bernard intervienne sur deux points. Ce qu'il a vu à Sarajevo, à plusieurs occasions, mais notamment pendant le voyage de Mitterrand, d'une part, et d'autre part, la façon dont il a... Ça s'appelle « nations building » en anglais. Comment est-ce qu'on peut traduire ça ? La construction de la nation ? Comment il a reconstruit la nation du Kosovo pendant deux ans, au nom de l'ONU, qui est une expérience... « Nations building » était assez peu connue. C'est une activité très complexe. Et donc, j'ai pensé que ce serait bien qu'il nous explique comment ça se passe et ce qu'il a fait. Alors, pour éclaircir les choses, en un premier temps, vous avez... Voilà. Attention, parce qu'il y a d'autres choses derrière. Donc, c'est pour que vous visualisiez bien où est la Bosnie, où est le Kosovo, pardon, en bleu. Et maintenant, alors, j'ai fait un récapitulatif que je vais lire, et tu peux m'interrompre quand tu voudras. Donc, 1980, mort de Tito, président de la Yougoslavie, fédéré la Yougoslavie en 1945 à la tête des résistants communistes. 1989, chute du mur de Berlin. 1990, tu m'as dit tout à l'heure, 1990, juste après, tu m'as dit que Milosevic avait fait un discours important. Ah, tu prends ton micro ?
Non, on va voir.
Ah non, si tu prends ton micro...
C'est en 89.
S'il te plaît, faut que tu prennes ton micro.
Oui, mais j'ai pas l'intention de parler beaucoup. C'est en 89 que le discours de Milosevic à le Champ des Merles, là, commémorant 600 ans après la défaite qui a toujours été considérée comme une victoire par les Serbes, c'est la défaite des Serbes, en 1389, que Milosevic a donc, devant 1 million de... spectateurs, je ne sais pas comment on peut dire, c'était pas des spectateurs, enfin, 1 million...
Participants, plutôt.
De participants, non, parce qu'il n'y a que lui qui a parlé, mais enfin, il y avait un monde fou, et c'est au début, donc, de l'année 89, qui s'est conclu, en décembre, si je ne m'abuse, par la chute du mur.
Alors,
le discours de Milosevic était un discours robuste, comme on dit.
C'est-à-dire belliqueux.
C'est-à-dire, une espèce de revanche, oui, enfin, faudrait lire le discours, mais oui, c'est un discours à la gloire
De la toute-puissante Serbie.
Oui, lui, il était président de la Yougoslavie, oui.
Mais il a parlé des Serbes exclusivement ?
Il a parlé à l'endroit de la défaite, sur un ton de victoire. Ce qui, évidemment, laissait présager...
Qu'il allait en faire une victoire.
C'est moi, ça.
Ah oui, c'est toi, ça.
Ah, vas-y, continue.
1991, la Slovénie et la Croatie proclament leur indépendance, sans trop de difficultés, autant que je me souvienne. Janvier 92, déclaration d'indépendance de la République serbe de Bosnie, qui, elle, cherche son maintien dans la Yougoslavie. Il n'y a pas encore c'est la première fois qu'on voit apparaître les Serbes de Bosnie. Donc 1992, déclaration, je reprends, de la République serbe de Bosnie qui veut son maintien dans la Yougoslavie, que personne n'a jamais reconnu, cette République serbe de Bosnie. Février 1992, référendum d'autodétermination en Bosnie. On n'y est pas arrivé comme ça. Il y a d'abord eu la fameuse commission Badinter, qui était une commission... Ah, tu fais la moue.
C'est la mousse, ça n'a rien changé, mais tu peux pas dire que en 92, il y a la déclaration d'indépendance, il y avait la guerre.
Il y a quand même la déclaration d'indépendance.
Oui, mais enfin, tu peux pas gommer la guerre, tu peux pas dire qu'il n'y avait pas eu d'affrontement avant.
J'ai pas dit qu'il y avait pas eu d'affrontement.
Non, tu ne l'as pas mentionné.
Bon, c'est la guerre, d'accord, c'est la guerre.
Ah oui, c'est
février 92, référendum d'autodétermination en Bosnie. Qu'est-ce qu'il y a sur la commission Badinter qui ne va pas ? La commission Badinter était chargée d'examiner la version juridique des choses, non ?
Bon, elle l'a examinée, mais ça n'a rien changé.
Bon.
C'est dommage, mais enfin, ça n'a rien changé.
L'indépendance est adoptée avec 98% des voix des Croates de Bosnie et des musulmans, appellation créée par Tito en 1971. Où est-ce qu'il est, mon bosniaque? Il a disparu. Enfin, c'est lui qui m'a dit. Je pense que c'est vrai. Hein. Ensuite, 5 avril 92, c'est le début du siège de Sarajevo. Les Serbes de Bosnie tirent sur une marche pacifique et une étudiante en médecine est la première victime de cette guerre. Je crois qu'un pont a été élevé. Un pont porte son nom. Un pont de Sarajevo porte son nom. Suada Dilberović. Ensuite, a lieu le blocus. Enfin, il y a le blocus. Ensuite, Sarajevo est complètement bloqué sous les bombardements serbes tout le temps. Puis l'ONU décide un embargo sur les armes. En juin 92, l'ONU rouvre l'aéroport de Sarajevo, qui était devenu évidemment impraticable. Et le 27 juin, François Mitterrand est à Sarajevo et tu étais avec lui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pardon. Oui, mais on ne peut pas résumer ce qui s'est passé dans les balcons de cette façon.
Mais je sais bien.
Bon, alors, le fais pas.
Parfait.
Parce que tu vois, non, mais Catherine, on ne peut pas arriver à Mitterrand, à Sarajevo. Je vais vous raconter l'histoire parce que c'est une jolie histoire, mais il faut savoir qu'il y a eu 3 ans de guerre et que cette guerre a été particulièrement horrible, d'un côté comme de l'autre, de la façon dont, autour de Sarajevo, parce qu'on commence en Bosnie, on est à Sarajevo. Il faut quand même savoir ce que c'était que l'éclatement de la Yougoslavie, c'est-à-dire d'une tentative de fédération entre des pays qui avaient eu, certes, dans l'histoire des rapports, souvent conflictuels. Il faut savoir comment ça se situe sur un millénaire, en réalité. Et l'arrivée de Tito, après une résistance qui a été la plus belle résistance de toute... celles qui ont ou non eu lieu dans les pays envahis par les troupes allemandes, ça c'est vrai, et il y a eu donc un espèce d'espoir pour les gens qui croyaient au socialisme qui a été représenté par la Yougoslavie pendant de longues années. Tito, si je ne m'abuse, à partir de 71, s'est en effet opposé d'abord... Enfin, il s'est opposé à la fois à la Chine et à l'URSS, mais il s'est très fermement opposé. Il y a eu des accords et des désaccords, surtout entre Tito et Staline, qui sont majeurs dans cette histoire. Et il y avait dans la Yougoslavie de l'époque, c'est-à-dire dans la Yougoslavie formée par toutes ces, comment dirais-je, parce qu'il y a à la fois à parler des ethnies, à parler politique, à parler de l'environnement, etc. C'était un pari, la Yougoslavie, qui n'a pas été gagné, mais qui a, pendant longtemps, fait rêver les gens par rapport à ce qui se passait dans les autres pays, gagnés par ce qu'on a appelé le communisme ou le socialisme. Il fallait faire la différence, d'ailleurs, ça aurait été très bon pour la pensée honnête. Et donc, cette Yougoslavie a existé beaucoup, pas seulement parce qu'ils ont inventé l'autogestion, mais parce qu'ils ont représenté une société socialiste beaucoup plus ouverte, beaucoup plus responsable de ce qu'ils étaient, faisant partie, enfin en tout cas Tito avec Nasser, etc., des non-alignés, et il y a eu là quelque chose de très fortement ancré dans l'espoir des gens. Mais si on commence, si on est déjà à Sarajevo, on a gommé tout ce qui s'est passé, ce que vous connaissez tous par cœur, c'est-à-dire un conflit terrible. Alors, on dit qu'il n'y a pas eu grand-chose. Comment ? La Croatie...
Qui dit qu'il n'y a pas eu grand-chose ?
J'ai compris ça dans ton...
Dans
ton raisonnement, mais c'est parce que je ne comprends rien, bien entendu.
Oh, c'est ça, bon, voilà, comme
il faut
d'habitude.
On ne peut pas gommer un conflit qui a fait des milliers de morts, et en particulier entre la Croatie et la Serbie.
Voyons. Aussi.
Bon, oui, mais pas aussi. D'abord.
Oui, mais il est question du siège de Sarajevo.
Une seconde. On ne peut pas parler de la décision d'aller à Sarajevo en passant sous silence ce qui s'est passé avant, dans les 10 années précédentes, d'un conflit entre un pays que l'on croyait solide, on avait tort, qui regroupait dans une fédération avec des républiques autonomes en plus, dont était d'ailleurs le Kosovo. Donc on était prévenu de façon extrêmement précise par les dégâts que ces premières guerres avaient occasionnés. Alors après, longtemps après, 10 ans après, quand même. Hein.
Ça tient de 1945 à 80, non?
Non, mais ça, mais sur, ne, 45, on est dans la guerre, on est dans Tito résiste, et il a gagné d'ailleurs, au prix de grands sacrifices de tous les peuples, mais enfin de tous les ceux qui ont participé de cette résistance, mais on est loin. Là, on est en 60, on est en 92 pour François Mitterrand à Sarajevo, donc vous vous rendez compte, il y a eu 50 ans quand même. Donc, ces 50 ans ont été marqués par. Et à la fin, l'éclatement de la Yougoslavie, par la tentative de construction d'un régime plus ouvert, mais qui était socialiste. L'Union des républiques socialistes yougoslaves. Alors ça, il faudrait quand même avoir un tout petit peu le temps d'en parler. Ce qui s'est passé ensuite entre... D'abord, la Slovénie, c'est le seul endroit où on s'est en effet très peu battu. C'était la plus proche de l'Autriche. Et la Slovénie a déclaré son indépendance tout de suite. Il y a eu un ou deux petits. Aucun affrontement n'est petit. Ça fait des morts à chaque fois. Mais enfin, il n'y a pas eu de gros combats. Alors qu'entre la Croatie et la Serbie, il y a eu d'énormes combats. Il y a eu. D'abord, Tudjman n'a pas été tout de suite président de la Croatie. Parce que Tudjman, il était un des vice-présidents de la Yougoslavie, et Tudjman et Milošević se connaissaient très bien. Et il y a eu une espèce d'entente, ou une pré-entente entre eux, mais qui n'a pas empêché une guerre assez très dure entre...
Mais alors, c'était quoi leur entente?
Quoi?
C'était quoi leur entente? Ils s'entendaient,
ils se connaissaient bien, parce que dans la Yougoslavie, il y avait une espèce de roulement des responsabilités. Je ne me souviens plus exactement combien il y avait de vice-présidents, mais dont la Croatie. Et après, quelques mois après le début de la guerre entre la Serbie et la Croatie, qui était à l'intérieur de la fédération, Tudjman a été élu. Et ensuite, on pensait de façon beaucoup plus fondée qu'il y aurait probablement une entente à la fin. Mais je ne sais pas de quel point de vue je parle.
Du point de, de vue de celui qui sait tout sur la question.
Non, pas du tout tout. Mais moi, j'ai été le représentant des Nations Unies, avec une place très officielle, et théoriquement, dans cette année-là, en tout cas, avec François Mitterrand, je ne l'étais pas. Et le fait d'avoir été avec François Mitterrand, que François Mitterrand m'ait demandé de l'accompagner ou de l'emmener même à Sarajevo, ça, c'était... Je peux en parler très à l'aise, puisque je n'étais pas le représentant, je n'avais pas une mission des Nations Unies et je n'avais pas une mission précise. Après, c'était autre chose. Alors là, quand François Mitterrand décide d'y aller, moi j'étais ministre, enfin, dans un gouvernement qui, avec le président de la République, François Mitterrand, nous avions souvent eu l'occasion de parler de ce qui se passait dans l'ex-Yougoslavie. Et comme j'allais souvent à Sarajevo, j'en avais parlé très souvent avec François Mitterrand. Je lui avais représenté les choses et demandé d'intervenir. Et la pression, petite pression que j'avais mise, a été renforcée, et plus que renforcée, par le récit qu'en a fait Bernard-Henri Lévy à François Mitterrand, en lui disant précisément qu'il devrait y aller. Et donc ça, c'était en juin 92, et il y avait au Portugal un Conseil européen en juin. Ce Conseil européen n'était pas terminé, c'était un vendredi, et j'ai reçu un coup de téléphone de Roland Dumas qui m'a dit « Bernard, viens à Lisbonne, le président a besoin de toi. » J'ai dit, mais pour faire quoi? Et il ne m'a pas précisé les choses. On va sans doute parler de la Bosnie, a-t-il dit. Je parle de Roland Dumas. Et donc, tu dois venir. Le président de la République te demande de venir, tu y vas. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qu'on me demandait, et je ne savais pas non plus que Mitterrand avait décidé d'aller à Sarajevo. Donc je suis arrivé, je vous passe les détails, mais c'est dommage, c'est des détails qui sont marrants. Hein.
Mais ne passe pas les détails.
Bah oui, mais t'as vu, je peux parler même sans tenir le micro.
Oui, d'accord, c'est très bien. Tu fais des progrès.
Le micro, non. Bon, donc, j'étais à...
J'arrive. Non, il faut quand même que tu le prennes, écoute.
Non, mais vous entendez, là. Bon, alors. J'étais donc avec ma petite chemise. Je pensais que j'allais assister à une des séances innombrables du Conseil européen et qu'on me demanderait, parlant de la Bosnie, peut-être de témoigner de ce que j'avais vu. Bon. Donc, j'arrive à... C'est ça qui est marrant, quand même. Donc, je vais là avec mon directeur de cabinet pour les affaires humanitaires, qui était Ripper, Jean-Maurice Ripper, et avec... c'est tout. Et puis, mon officier de sécurité, etc. Et donc, j'arrive et on me dit, il faut que vous alliez à l'hôtel Machin. Roland Dumas ira vous voir. Bon, donc je vais à l'hôtel Machin, à Lisbonne, et Roland vient me voir et me dit, à moi, même pas Jean-Maurice Ripper, mon directeur de cabinet, tu prépares un voyage et on va à Sarajevo.
Je lui dis, de toi, Lisbonne ? Il fallait le préparer de Lisbonne ?
Oui. On va à Sarajevo, me dit-il. Je lui dis, qui ? Il dit, toi et moi. Je dis, bon, tu aurais peut-être eu l'occasion d'y aller avant. Il était ministre des Affaires étrangères, moi, secrétaire d'État auprès de lui. Bon. Donc, mais tu lui dis, tu sais, c'est pas facile en ce moment, l'aéroport, tout ça. Il dit, écoute, tu y es allé 25 fois, tu prépares ton voyage. Bon. Donc, Jean-Maurice et moi, dans l'hôtel, dont j'ai oublié le nom, avec les moyens du téléphone de l'hôtel, il n'y avait pas à ce moment-là des satellites, vous avez votre téléphone, c'est même plus le grand maître qu'on vous en avait. Bon, non, c'était difficile. Or, l'aéroport de Sarajevo, ce que je savais, parce que j'en venais, je crois, environ 30 semaines avant, l'aéroport de Sarajevo était bloqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que François Mitterrand avait décidé de le débloquer. Les vols humanitaires ne se posaient plus à Sarajevo. Il y avait des camions sur la piste et on ne pouvait pas atterrir. Donc, il y avait un général canadien que je connaissais bien, qui s'appelait McDonald. Et je téléphone à McDonald. Ça n'a pas été facile, parce que Sarajevo, c'est la guerre. Le mec, il a autre chose à faire que prendre un coup de téléphone, etc., etc. Finalement, il me dit non, ce n'est pas possible. McDonald, le général, qui quand même commandait les forces de l'ONU et était responsable de l'aéroport. En plus, sur la route de l'aéroport, pour Sarajevo, c'était absolument, c'est ce qu'on appelait la Sniper Alley, et c'est là qu'il y avait le plus de morts, parce que les snipers serbes étaient sur le quartier serbe était en descendant vers Sarajevo. Sur la droite, il y avait des habitations assez hautes, et c'est à partir de là que les dégâts les plus importants se faisaient, parce qu'ils étaient là en permanence. Il y avait d'autres, il y avait aussi les bombardements, parce qu'au-dessus de Sarajevo, il y avait une ville serbe, et c'est à partir de là qu'ils tiraient au canon sur Sarajevo. Donc le général dit, c'est pas possible. Je lui dis, c'est possible ou pas, il faut que tu te débrouilles, nous on arrive. Comme ça que ça se passe, quand les gens se connaissent bien, même dans un théâtre d'opération. Et je dis, on se rappelle, blablabla. Je vous passe les détails, mais Roland Dumas arrive peut-être à 2h ou 3h de l'après-midi. Il vient me voir, on était en train de nos trucs avec Jean-Maurice, on essayait de mettre le voyage au point, prévenir les gens. Et il dit, bon, voilà, tu ne le dis à personne, personne ne le sait, vous restez dans votre chambre, c'est pas moi qui vais à Sarajevo, c'est le président. Bon. Je dis, excuse-moi de te dire que c'est pas la même chose. Là, tu me demandes de protéger le président de la République dans un théâtre de guerre, on y va à deux. Bon, c'était un peu plus difficile. J'avais d'autres responsabilités, mais pas au sens où c'était moi qui allais arrêter les balles. Mais je veux dire, il fallait quand même prévoir autre chose que ce que c'était un ministre et moi-même. Deux ministres, un petit et un grand. Et donc là, ça change tout. Alors on devait Personne n'était au courant de ça. Seul Roland Dumas était au courant, et à la fin, François Mitterrand a dit à Mario Soares, qui était le président, où il allait, mais à la fin de la séance de l'après-midi du Conseil européen, c'est-à-dire de tous les chefs d'État européens, en partant, alors que Mario Soares raccompagnait à l'aéroport, pas seulement François Mitterrand, les autres aussi, Roland Dumas lui avait conseillé de dire quand même au président, parce que Mario Soares était président de l'Union européenne, c'est pour ça qu'on était à Lisbonne, chez lui. Et donc, moi, j'étais là pour prendre le président, le mettre dans l'avion, qui était un avion habituel de la présidence de la République, c'est-à-dire un Falcon banal. Je pars, et là, François Mitterrand étant dans l'air, vers Sarajevo, Roland Dumas, restant le seul à bord, si j'ose dire, mais à terre, prévient la terre entière que le président de la République française allait à Sarajevo. Bon, il y avait une heure précise dans l'après-midi, ça c'était, on a dû s'envoler vers 4-5 heures, et là, il prévenait les autres. Bon, les autres, la presse, etc. Donc nous étions dans l'avion, c'était très agréable, comme d'habitude, Mitterrand avait deux livres, un ancien et un moderne. Ce que j'ai appris est ce que j'applique. Je ne sais pas si tu fais ça.
À peu près, oui.
Nous étions sous la même influence. Et donc, il avait ses deux livres et il est dans le Falcon, il y a un siège derrière avec un lit, enfin avec une couchette. Et moi, j'étais devant avec Jean-Maurice Ripert, mon officier de sécurité, François, et les gardes du président, qui n'étaient pas très nombreux. Hein. Donc nous allons. Et moi, j'avais dit, ah bon, j'ai oublié de vous dire que là, j'avais dit au général MacDonald, tu te démerdes, t'enlèves les camions, parce que voilà, le président arrive. En l'air, je lui avais dit. Donc on savait que les camions, on savait qu'il restait des trous dans la piste, mais pas de camion, en gros.
Mais comment on atterrit quand on sait qu'il y a des trous dans la piste?
On fait gaffe aux trous. Ben non, mais fais pas dur, tu te mets pas dans le trou. Enfin, de toute façon, on n'a pas atterri. On arrivait et il y avait une fameuse Kouchner, enfin, ce qu'on appelait la Kouchner Road, pardon de cette arrogance, mais enfin, nous avions ouvert une piste avec un certain nombre de camions de la France pour ravitailler Sarajevo. À partir de Split, il y avait une route à travers la montagne où on savait en gros où étaient les checkpoints, mais enfin, on savait, mais c'était sur la route. En avion, on suivait cette route, on l'avait dit aux pilotes, et théoriquement, on atterrissait. Seulement, en réalité, il faisait très noir, il y avait des trous dans la piste, et le pilote a refusé d'atterrir. Alors, moi, j'ai été voir le pilote, je lui ai dit, enfin, bon, président de la République, il faut que tu atterrisses. Il a dit, c'est moi qui décide, bon. On a été chercher François Mitterrand, on lui a dit, est-ce que vous pouvez aller dire au pilote qu'il faut qu'on atterrisse ce soir? Parce que lui, il avait un programme, il ne faut pas exagérer, c'était quand même une expédition assez risquée, et il avait des choses à faire. Bon. Et donc, l'autre, il a dit, excusez-moi, monsieur le président de la République, mais c'est le pilote qui décide. C'est vrai, le pilote qui décide, on peut atterrir ou on ne peut pas atterrir, c'est pas au président, c'est pas une période de guerre, c'est pas un avion de guerre, c'est un petit Falcon, voilà. Donc on n'a pas atterri. Et donc, il fallait improviser, là c'était drôle, il fallait improviser, alors nous nous sommes posés à Split, qui est quand même la ville.
Combien de kilomètres à peu près?
Oh, Split, c'est pas très loin, ça doit être 100 kilomètres, un truc comme ça, 120 kilomètres, même pas. À travers la montagne, c'est pas une route facile, hein, mais enfin, bon, en avion. Et il fallait prévoir, d'abord, personne ne nous attendait, l'hôtel, tout ça, le président de la République, c'est un pays en guerre, enfin, ça se protège, le président de la République, quand même. Donc, nous sommes arrivés, ça amusait beaucoup François Mitterrand. Et j'avais, moi, il se trouve que j'étais allé 3 semaines ou 1 mois avant dans cet hôtel-là, partant par la route, et donc on a essayé d'avoir l'hôtel, on est passé par Paris, etc., et nous sommes arrivés Tout ça est en juin 92. Et la bataille du Champ des Merles, c'est en juin 1396. Et ce jour-là, c'est la fête absolue de ce qui apparaît comme une espèce de bravoure serbe permanente, alors que c'est une défaite serbe. Mais ce jour-là, la réputation des Serbes, c'est de faire absolument ce qu'ils veulent, d'assassiner qui ils veulent et de se montrer violents. Et donc on arrive dans cet hôtel avec la connaissance très vague de la situation psychosociologique de la commémoration de la bataille du Champ des Merles. Moi, ça me terrifiait parce que j'avais François Mitterrand quand même. Et je connaissais un peu la guerre.
Il se rendait compte, lui ?
Hein ?
Il se rendait compte, lui ?
Non, lui, ça le l'amusait beaucoup. Et il était très content de scouter un peu sa routine. C'est pas un peureux, hein ? C'est un type assez costaud. Donc, il était content. De toute façon, il avait essayé d'atterrir. On avait fait ce qu'on a pu. Il ne pouvait pas atterrir. Donc, on y allait le lendemain. C'était simple. Et il fallait passer la nuit. Il fallait que les mecs se mettent dans le couloir. Enfin, garde le président. Et moi, j'avais qu'une seule chemise, donc il fallait que j'en achète une. Bon. Et le président, lui, craignait que tout le monde accourt, y compris Tudjman, président de la Croatie, mais surtout le gouvernement. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères est arrivé dans la nuit, à fond. Déjà, évidemment... Le secret n'était plus gardé. On savait que le président de la République française était dans la région. Je ne sais pas, moi je n'étais pas là puisque la presse, c'était à Paris, avait ou non publié qu'on ne pouvait pas atterrir, mais je crois que oui. Donc refus d'atterrir du président de la République, il est quelque part dans le coin. Bon, je vous passe les détails, mais on s'est bien marré. Le président était très en forme. On était à table avec des gens divers. Il y avait simplement cette hantise du jour de la commémoration de la bataille du Champ des Merles et d'une espèce d'excitation qui allait saisir l'ensemble de la région. Enfin, bref, on n'a rien saisi du tout. On a passé la nuit à peu près normalement. Et le matin, nous nous sommes levés tôt pour prendre le petit déjeuner et nous lever en fonction, enfin, décoller en fonction du temps pour atterrir à Sarajevo.
Et là, le pilote a bien voulu atterrir.
Oui. Ah ben, c'est pas qu'il n'ait pas voulu, c'est qu'on ne pouvait pas, franchement. Il aurait bien atterri. C'était pas pour nous faire de la peine qu'il n'a pas voulu atterrir. On ne pouvait pas, on ne voyait rien.
C'est à cause de l'obscurité qu'il n'a pas voulu atterrir.
Pardon ?
C'est à cause de l'obscurité.
L'obscurité, les nuages, on ne voyait rien.
D'accord.
Mais on ne pouvait pas, parce qu'on avait bien demandé d'illuminer la piste. Il y avait quand même un peu... Quelques lunes... Je ne sais pas quoi, des lumières qui restaient, mais bon, ça n'avait pas suffi. Je pense que c'était prendre trop de risques, y compris avec le président de la République, pour atterrir. Donc le lendemain, c'était au jour. Et d'ailleurs, il faisait plutôt beau. Alors, nous avons pu atterrir. Il n'y avait plus de camions sur la piste. Et nous attendaient le général, les forces de l'ONU, le colonel qui commandait les soldats français de la mission des Nations Unies, etc. Bon. Qu'est-ce que je peux vous raconter pour ne pas être trop long ?
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Alors, d'abord, nous sommes arrivés et nous attendaient donc des véhicules de la mission des Nations Unies pour la Bosnie, des véhicules blindés. Un de ceux-là, après avoir salué le général et un certain nombre de gens qui étaient là, François Mitterrand... Enfin, les Serbes sont venus. Les Serbes qui étaient là, c'était Mladic et Karadzic.
Les pires.
Hein ?
Les pires.
Les pires. Et donc, François Mitterrand a dit, je vois d'abord Izetbegovic. Je lui ai rendu grâce pour ça, parce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Les types attendaient... Il y avait une espèce de bâtiment que je connaissais par cœur, parce que c'est le seul bâtiment qui restait debout. Donc, on pouvait attendre dans ce bâtiment, mais le président de la République française a dit « On va d'abord voir M. Karadzic, avec qui j'ai rendez-vous. »
M. Mitrović, Alija, le président de Bosnie.
Oui, bien sûr, président de la Bosnie, oui. Mais il y avait longtemps, 92, il y a eu 2 ans de guerre avant. Hein. Et donc, nous sommes allés à travers la Sniper Alley dans la voiture blindée, enfin dans le véhicule blindé de l'avant, et nous sommes allés jusqu'au palais présidentiel où nous attendait Izetbegovic. J'ai oublié d'ajouter la présence de l'ambassadeur français qui s'appelait Chenu et qui est le seul à avoir pris des notes parce que François Mitterrand ne parle pas anglais. C'est comme ça, une génération où on ne parle pas anglais. Et donc, le dialogue avec le président Izetbegovic s'est passé en anglais, c'était moi l'interprète. Désolé, mais vous verrez, ça a de l'importance. Donc, je ne pouvais pas prendre de notes parce que j'essayais d'être un interprète plutôt neutre entre Izetbegovic, que je connaissais bien, et François Mitterrand, que je connaissais encore mieux. Ça s'est passé de façon très chaleureuse, sans démonstration excessive, ni de la part du président Mitterrand, ni d'Izetbegovic. Tout ça s'est passé. Et il nous attendait, entretien, déjeuner, conférence de presse, et on repart. Alors, qu'est-ce qui s'est dit après les remerciements du président bosniaque à François Mitterrand, qui était le premier chef d'État qui avait eu le courage de venir là?
Est-ce qu'il y en a eu d'autres?
Pardon?
Il n'y en a pas eu d'autres?
Non. Oh, après, il y en a eu. Mais pendant la guerre, je ne crois pas, non. Avant Dayton, il y a eu beaucoup de ministres. Et encore en particulier, mon ami, auquel je rends toujours un hommage et avec un respect formidable, Richard Holbrooke, qui lui a fait les accords de Dayton. Même ce qu'on peut en penser, c'est autre chose, mais enfin, ça a arrêté la guerre. Donc, le président bosniaque a décrit les horreurs de cette guerre, en particulier à l'intérieur de sa ville, qui était bombardée, où il y avait des morts tous les jours, la façon dont ce blocus, que finalement le président Mitterrand aura levé, que ce blocus était terrible parce qu'il n'y avait plus rien à bouffer, rien. Ce qui arrivait par la route, j'ai dit tout à l'heure que nous, on avait fait passer des camions, oui, dans des périodes plus calmes, même s'il y avait... Vous savez, quand on fait passer de l'aide humanitaire, il faut vous attendre toujours à ce que l'ennemi prenne la moitié. Ou alors, ce n'est pas la peine de faire le malin, vous ne passez pas. Il y a quelques réalités qu'il faut connaître quand même. Alors, si vous ne passez pas, ce n'est pas les gens que vous êtes censés
c'est chaque fois, automatique.
Pas automatique, non, mais c'est pas improbable, hein. Et voilà, les checkpoints, c'est pour empêcher les gens de passer. Si vous voulez passer, il faut sacrifier. Si vous avez du pot, si vous êtes un merveilleux ami ou je sais pas quoi, vous avez un talent fou, ça arrive qu'on vous demande rien, mais c'est vraiment pas exceptionnel qu'on le demande. Donc il y avait vraiment rien à manger. Alors, je vous ai parlé, la ville au-dessus, qui était la ville serbe, s'appelait Palais. Ça s'appelle toujours d'ailleurs. Hein. Et donc de là, on bombardait très facilement. Même au mortier, vous faites tomber sur la ville en dessous. Donc il n'y avait rien qui passait. Et le président Mitterrand était très attentif aux réalités humaines de cette ville que tout le monde connaissait, parce que les journalistes y allaient. Là, il n'y avait plus personne pour passer, parce que l'aéroport ne fonctionnait plus et que les barrages étaient véritables. Mais il faut savoir aussi qu'on pouvait passer par la montagne, de l'autre côté, et qu'il y avait un souterrain sous l'aéroport. Ce souterrain...
Tunnel.
Le fameux tunnel. Dans lequel, d'ailleurs, un certain nombre de gens sont morts. Bon. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors, en dehors de ça, politiquement, François Mitterrand disait, moi, je suis venu pour... D'abord, lever ce blocus humanitaire. Il faut que l'aide humanitaire internationale puisse arriver. Et j'espère qu'elle sera levée. Pression sur le Conseil de sécurité, etc., des Nations Unies. Deuxièmement, il faut dialoguer pour la paix. En gros, c'était ça. Le dialogue et le contact entre les deux présidents étaient très... comment dirais-je, très sincère. Alors, à un moment donné, Izetbegovic dit, et puis je dois vous dire, Monsieur le Président, qu'il y a en Serbie des camps d'extermination. Alors, moi, je traduis au président Mitterrand, Izetbegovic vient de dire, il y a des camps d'extermination. Alors, il dit, mais... Monsieur le Président, il a peut-être voulu dire des camps de concentration, mais il a dit camps d'extermination. Ça, c'est noté par Chenu. Alors, c'était la fin de l'entretien. Je vous dirai après ce que j'ai jamais dit, ce qui s'est passé après. Bon. C'était quand même quelque chose que Izetbegovic voulait faire passer au président de la République. Il y a des camps d'extermination, donc on tue les prisonniers ou on tue ceux qui ont été arrêtés en Serbie. Alors on va à la conférence de presse et sur le chemin, François Mitterrand me dit, il a dit camp d'extermination. Alors, je vais voir Izetbegovic et je lui dis, vous avez dit camp d'extermination. On allait ensemble vers les... Vous savez, c'était pas grand Tout ça, c'était dans le siège de Sarajevo, on se promenait pas. Nous sommes promenés dans les rues après. Et il dit, oui, j'ai dit camp d'extermination. Et je le maintiens. Conférence de presse. Moi, j'étais au milieu pour que je puisse traduire. Izetbegovic à ma gauche et François Mitterrand à ma droite, les journalistes. Ils font leur conférence de presse. François Mitterrand explique qu'il est venu tenter de lever le siège de Sarajevo, et le président Izetbegovic remercie le Français et dit « ça c'est comme ça, on respire, etc. Merci d'être venu, etc. » J'ai signalé au président de la République française qu'il y a en Serbie des camps d'extermination. Ça ne fait pas un pli, personne ne pose une question.
Comment
il y avait une vingtaine de journalistes.
Personne ne pose une question.
Personne ne pose une question, mais après, des livres sont publiés. Alors, je vous donne la réalité, maintenant. Donc, le président, puis on s'en va. L'avion, on ne peut pas le prendre parce qu'il avait pris une balle dans l'aile. Gubler, le médecin du président, j'ai oublié de mentionner ça, met du sparadrap sur l'aile. Parce que vous savez, c'est rien si vous mettez du sparadrap. L'air passe pas. Mais enfin, on ne peut pas prendre l'avion. Donc, on revient avec les deux... Il y avait deux hélicoptères qui nous avaient rejoints et on revient avec le président de la République française dans l'hélicoptère. Il était très content. Il me dit, j'aime bien voyager avec vous, Kouchner. Le président, c'est un bonheur pour commencer. Mais c'était sympathique, c'était utile. On a fait un truc vraiment bon. Et...
Mais il a vu aussi Mladic et Krajcik. Il a vu aussi les deux Serbes.
Ah non, attends, bien sûr, tu as raison, bien sûr. En arrivant donc à l'aéroport, Mladic Karadžić est le président du parti qui était un président d'université, j'ai oublié son nom, était là pour l'attendre. Et Mitterrand dit, bien sûr, maintenant on va voir les Serbes. Izetbegovic ne nous avait pas accompagnés à l'aéroport. Il ne sortait pas, Izetbegovic. Il était sorti dans le fameux... Parce que nous avons été, j'ai oublié de vous dire tout ça, mais ça prend des heures sinon. Nous sommes allés à l'endroit où... Sur la place du marché, il y avait eu un bombardement serbe et il y avait eu 80 morts, dont devant la boulangerie, etc. Il y avait eu une hécatombe sur cette place du marché et nous sommes allés jusque-là avec François Mitterrand et Izetbegovic. Et on s'est incliné devant ça, etc. Bon. Puis après, nous sommes partis à l'aéroport et il a rencontré Mladic et Karadžić. Alors, en gros... après les salutations d'usage, c'est surtout c'était le président de l'université qui était président du parti. Mladic était général et Karadžić qui est un médecin psychiatre, comme vous savez.
Et poète.
Que je connaissais très bien parce que j'avais négocié avec eux le passage des prisonniers. Bon. Quand vous négociez la paix, vous négociez avec les gentils et les méchants, avec les méchants et les gentils. Donc, François Mitterrand devenait de plus en plus réticent à écouter le récit de la guerre de l'autre point de vue, il avait écouté Izetbegovic et il écoutait les Serbes. Et les Serbes, le discours politique n'était pas le même, bien sûr. La Yougoslavie, l'unité, etc. Mais à un moment donné, le président de l'université interrompt Karadžić et lui dit « Mais vous savez, monsieur le président, quand on vous dit qu'il y a un mort du côté de Sarajevo, il y en a 10 chez nous. » Et cette exagération a révulsé François Mitterrand. Et il a dit « Ça suffit, je ne veux plus parler avec vous, vous dites des bêtises, monsieur. »
Comme ça ?
Et il était très en colère. C'est rare, parce que je n'ai jamais vu en colère une autre fois, c'est tout. Et donc il a dit « Ça suffit, maintenant je vous ai écouté, messieurs, je m'en vais. » Bon, ça n'avait pas été un discours très facile, bien entendu. Mais Mitterrand devait écouter ça. Bon. Et ça n'a pas duré plus de, à mon avis, demi-heure, hein. Demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. L'impression n'était pas la bonne. Il avait parlé... Ah, mais nous sommes allés aussi avant, sur le chemin, voir le bataillon français. Et on a pris donc cette auto blindée pour repartir. Nous sommes repartis dans l'hélicoptère.
À cause de l'aile blessée ?
Non, oui, l'avion... Malgré le sparadrap de Gubler, on ne voulait pas repartir. Bon. Enfin, il ne voulait pas repartir avec, et il y avait un autre avion qui nous attendait à Split. Alors, à Split, voilà, on a voyagé, nous sommes entretenus, mais je ne vais pas vous raconter tous les détails, ce qu'on a dit en plus, je n'en ai pour des heures. Et puis, nous sommes arrivés à Villacoublay, où le gouvernement attendait le Premier ministre, Pierre Bérégovoy. Et les ministres, évidemment, Roland Dumas, tout ça, attendaient. Bon, moi, je n'existais plus, là. J'étais... Simplement, Dumas m'a dit, il faut qu'on s'appelle. Le président m'a dit, cette histoire de camp d'extermination, il faut que je t'en parle. Et Roland m'a téléphoné, je crois, le soir, ou peut-être le lendemain matin, il était un peu tard. Bon, ils étaient contents que je ramène, que le président revienne en vie, bien sûr. Et Roland m'a dit, le président demande que tu ailles ouvrir les camps d'extermination.
Quoi ? Tu peux répéter la phrase ?
Le président m'a dit, et donc je te demande, moi, le ministre d'État, d'aller ouvrir les camps d'extermination. Alors, ça fait marrer maintenant, mais enfin, la réalité de ces... Moi, même si je pensais qu'il avait dit camp de concentration, ou je ne sais pas quoi, il avait dit camp, quoi. Non. Donc, je suis parti le lendemain. Et en effet, avant la Croix-Rouge internationale, j'ai ouvert le camp d'Orahovac.
Qui était où, alors, celui-là ?
En Serbie.
Et comment est-ce qu'on ouvre un camp On n'y va pas tout seul, j'imagine.
Mais si, tout seul. Enfin, j'étais avec deux ou trois mecs habitués à travailler avec moi et moi avec eux. Et finalement, ils ont accepté qu'on visite le camp. Et d'ailleurs, il y a une fameuse photo où on voit des deux côtés. Il y a une espèce de séparation au milieu de la pièce, une grande pièce, où des deux côtés, du côté du mur, si j'ose dire, du côté central, et de l'autre côté, les prisonniers sont alignés, allongés ou assis, mais vraiment alignés comme des sardines. Photo que j'ai publiée, enfin, je n'ai pas publiée, il y avait des journalistes avec moi, journaliste, quoi. Bon, enfin, bref, la photo est parue, elle est fameuse. Et après, j'ai visité le camp. Alors, j'ai vu l'infirmerie qui était une vraie saloperie, c'est vrai. Mais enfin, ce n'était pas un camp d'extermination. C'était un camp dégueulasse. Mais enfin, les gens n'y mouraient pas. Quand tu étais à l'hôpital, valait mieux changer d'hôpital, parce que là, les soins étaient vraiment ridicules, élémentaires, et même peut-être sciemment, mais enfin...
C'était grand comme camp ?
Relativement grand, oui. Il y avait surtout ce grand bâtiment, mais il y avait des bâtiments où les prisonniers couchaient. Et puis on a ouvert, enfin on était dans les autres, il y avait plusieurs camps. Et bon, ce n'était pas des camps d'extermination. Mais ça a fait l'objet de dénonciations terribles, en particulier d'un livre américain dont j'ai oublié et le nom et l'auteur, qui m'accusait, moi. Parce que j'avais dit, pendant la conférence de presse, moi je traduisais les paroles, qu'il y avait, que Izetbegovic avait dit « camp d'extermination » et que ça n'a fait réagir personne et que nous avions énoncé ces choses comme si elles allaient de soi. Et puis, il y a eu des enquêtes et il y a eu des accusations terribles. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. On ne contrôle pas ce qu'on dit. Enfin, moi, j'ai contrôlé très bien ce que je dis, mais vous ne contrôlez pas ce qui a été interprété comme autre chose. Mais enfin, ce qui était vrai, c'est que c'est quand... J'ai jamais vu des camps de bonheur, hein, mais enfin, c'était un camp relativement dégueulasse. Ce que j'ai vu ne l'était pas trop. Et même si l'infirmerie était quelque chose de triste, vraiment, bon, ce n'était pas un camp d'extermination. C'était un camp où les prisonniers étaient maintenus. Bon.
Donc tu l'as fait savoir ?
Non. Parce que
comment
ce que je peux vous dire maintenant, non. En fait, la réalité, c'est que j'ai toujours été frappé par ce que j'avais laissé faire ou pas laissé faire, ou fait ou pas assez, ou... Bon. Si bien qu'avec Richard Holbrooke, nous sommes allés voir Izetbegovic, qui était très malade et qui allait mourir. Et nous l'avons visité à l'hôpital de Sarajevo, où son fils, d'ailleurs, qui était encore il y a quelques mois, vous savez qu'il y a, avec les accords de Dayton, un roulement des responsabilités qui fait que c'est presque pratiquement impossible à diriger ce pays qui n'en est pas un ou qu'en est un. Enfin, il y a la paix. Et le fils Izetbegovic était président de la Bosnie il y a encore quelques mois. Je ne sais pas où ça en est maintenant, qui lui a succédé, parce que le roulement se fait entre les trois entités, un croate, un serbe, un bosniaque. C'est compliqué, mais c'est la paix. Alors tout le monde n'est pas content, il pense que la Yougoslavie c'était bien. Oui, il y en avait 7% qui disaient qu'ils étaient yougoslaves. Et c'est vrai, je l'ai souligné depuis le début, c'était un endroit où, sur lequel on pouvait fonder des espoirs. Je l'ai fait. Et donc, avec Richard Holbrooke, retour à Izetbegovic, que j'avais visité entre-temps d'ailleurs, qui était vraiment à la fin de sa vie. Et donc, Richard avait une question à lui poser. Richard, Izetbegovic, hélas, est mort. Richard Holbrooke, hélas, est mort aussi. Et moi, pas encore. Mais ça ne va pas tarder. Hein. Donc, il avait une question à poser, et moi aussi, très gentiment, il m'a laissé poser la première question, et j'ai demandé à Izetbegovic, pourquoi vous nous avez dit qu'il y avait des camps d'extermination ? Et il a dit, parce que je voulais faire réagir la communauté internationale. Je lui ai dit, mais c'était pas vrai ? Non, c'était pas vrai, m'a-t-il dit.
Mon Dieu !
Ben, mon Dieu ! Son boulot d'avoir fait ça, c'était mon boulot de le croire, c'était pas vrai. Et Richard a dit au président, au même, pourquoi vous avez dit ça à Helsinki ? Alors, je savais pas, moi, que Richard était à Helsinki, qu'il y avait eu une espèce de... C'est pas un chantage, mais enfin, c'était une forme de pression sur nous. Et il a dit, pour la même raison. C'est-à-dire que Izetbegovic, dont je n'accuse absolument pas ni d'insincérité, ni de malhonnêteté, du tout. Il avait pensé... Ça faisait quand même presque 3 ans qu'on bombardait cette ville sans que la communauté internationale ne réagisse outre mesure. C'est Chirac qui a réagi. C'est pas Mitterrand. Et donc, le président essayait de faire réagir la communauté internationale. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'en ai pas voulu pour autant, parce que la situation était effrayante. Et je ne vous ai pas raconté, parce que tout ça, ça serait beaucoup trop long dans notre dialogue, trilogue avec Izetbegovic. Nous avons marché dans la ville jusqu'à l'église. Une et des églises, il y en a plein. Il y a aussi des synagogues, il y a aussi des mosquées. À Sarajevo, c'était ça. C'est ça qui est triste. c'est que cette multiconfessionnalité, ces religions mêlées, cette ouverture de la ville à toutes les communautés avait disparu, bien sûr. Et donc on a marché dans cette ville avec Izetbegovic et Mitterrand, et il a dit, mais Kouchner, vous m'aviez raconté qu'il y avait eu une espèce d'entente dans l'église, entre les communautés. Oui, monsieur le président, c'était dans cette église. Parce qu'on avait beaucoup essayé, si je ne m'abuse, mais je peux me tromper, l'attaque que tu as mentionnée, c'était au mois d'avril.
Laquelle ?
L'attaque sur la foule, des Serbes qui ont tiré sur la foule.
Attends,
au début de l'année. Bon.
Oui, c'est ça.
Avril.
5 avril, oui, absolument.
Voilà, avril. Donc, oui, et la réunion a... Alors, on avait beaucoup travaillé avec toutes les religions, les musulmans, les orthodoxes, les chrétiens, etc., les juifs. Et il y avait eu dans cette réunion, dans cette église, une réunion que moi, je jugeais, parce que j'étais toujours optimiste, relativement décisive, puisqu'ils étaient tous là, et ils ont tous juré qu'ils ne feraient jamais la guerre entre eux. Évidemment, passant devant cette église bombardée avec le président de la République.
Ils ont juré comment ? Avec les gestes de main, comment ils ont fait ?
Qui ?
Mais ceux qui ont juré qu'ils ne feraient jamais la guerre.
Ben, c'est une réunion qui a duré très longtemps dans cette église. Ils ont pris la parole tous ensemble. Et on a fait un texte qui a été dit, on ne fera pas la guerre. Évidemment, ils l'ont faite. Mais c'est toujours comme ça. Bon. Et donc, cette église est-elle témoin ? Il y avait eu des films, il y avait eu des... etc. Sur cette... réunion multiconfessionnelle où on pensait que rien ne se passerait et que... Bon. Voilà, alors nous sommes rentrés. Le président de la République est rentré. Et ça a ouvert la piste de Sarajevo pour l'atterrissage des avions humanitaires.
C'est-à-dire que les trous ont été rebouchés et les camions...
ont atterri. Mais oui, il a réussi son coup, bien sûr. Et c'est très bien. Donc, ça ne va pas dire que ça s'est arrêté tout de suite et que l'aide humanitaire était suffisante par avion pour ravitailler. Ce n'est pas ça du tout, malheureusement. Mais enfin, il a réouvert. Si je ne m'abuse, ça, il faut vérifier tout ça. En gros, c'était fermé depuis 3 semaines. Et après le voyage de François Mitterrand en Sarajevo, ça a été rétabli. Quelques jours après. Peu de jours après. Voilà. Alors, c'est pas... Je vous ai raconté une petite histoire. Mais enfin, maintenant, il y a eu autre chose qui s'est passé dans les Balkans. Hein. Et malheureusement, ça s'est passé de façon très médiocrement heureuse, le moins qu'on puisse dire, et très cruelle et très meurtrière. Dont cette guerre qui a duré des années et des années, parce que ça, c'était la Bosnie. Les gens qui connaissaient un peu disaient cette juxtaposition et la présence de toutes les religions à Sarajevo même, ça va être terrible. Et ça a été terrible. Ça a été vraiment très meurtrier. Alors, on peut maintenant approfondir tous les détails. Maintenant, c'est reconstruit. Pour ceux qui croyaient à l'entente entre les peuples, comme on dit, ça ne peut pas être satisfaisant. Mais pour moi, qui ai participé et à Sarajevo et ensuite au Kosovo, comme représentant de la communauté internationale, ça quand même était mieux de faire la paix. Quels que soient les espoirs que l'on mettait dans une entente ou un socialisme différent, plus ouvert, je pense que personne ne regrette qu'on ait, qu'à un cas, longuement en Bosnie, assez rapidement au Kosovo, rétablit un semblant de paix. Maintenant, je suis prêt à répondre à tout ce que vous voulez.
Oui, d'abord à mes questions, si tu veux bien. Tu es nommé représentant spécial des Nations Unies avec chef de la mission administrative à Pristina, au Kosovo. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton boulot ?
Mon boulot, c'est d'abord qu'ils ne se battent plus.
Donc quand tu arrives, ils se battent encore ?
Ils se battent tous les jours et toutes les nuits. Il y a des assassinats entre eux et plus beaucoup entre Serbes et Kosovars, mais entre la Ligue démocratique de Rugova et Lučeka, entre ceux qui se sont battus et ceux qui étaient plus ou moins pacifistes tout en voulant, pas plus ou moins qui étaient pacifistes tout en voulant l'indépendance du pays, oui, il y avait... Donc il faut rétablir, et puis il fallait protéger les Serbes qui restaient, et surtout à Pristina. Donc c'était un travail jour et nuit de protection, dans un premier temps administratif, tu parles si on y pensait, il n'y avait plus d'administration du tout, il fallait en rétablir une, il y avait une opération Eulex. Il y avait quand même deux... Moi j'étais responsable de tout. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'est la seule mission des Nations Unies où j'avais l'entière responsabilité de la décision. Évidemment, il y avait ce qu'on appelait les quatre piliers, the four pillars, qui étaient des gros pillars. Par exemple, il y en avait un, c'était la communauté européenne, l'autre, c'était du chef. Fallait. Et moi, j'étais le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour appliquer une résolution qui était la 1244 et qui disait rien de ce qu'il fallait faire, rétablir la paix, tu parles, et surtout travailler à « substantial autonomy », c'est-à-dire le mot « indépendance » n'était pas prononcé, le mot « la paix », c'est quoi quand il y en a, vous ne pouvez pas rétablir la paix quand elle n'existe pas, il faut d'abord faire la paix. Bon, enfin voilà, c'était ça, et il a fallu des années pour le faire. Enfin, moi, je suis resté que 2 ans, hein. Mais...
Le plus gros souci, c'était quoi ?
Le
plus gros souci ?
D'empêcher les meurtres. C'était d'essayer de rétablir... Il y avait 3 gouvernements. Avec le mien, ça faisait 4. Il y avait un gouvernement serbe, avec le représentant, parce que c'était le Kosovo, c'était la Serbie. Et il n'y avait eu aucune déclaration pour dire que c'est fini et qu'il y a une autonomie. Donc, il y avait un gouvernement serbe, il y avait un gouvernement de la LDK, de la Ligue et de Rugova, il y avait un gouvernement de Lučeka, avec Hashim Sači, etc. Et moi, j'arrivais pour mettre tout le monde d'accord en faisant, mes petits gars, vous n'avez pas du tout, la communauté internationale a décidé que c'était nous qui faisions. Il n'y avait pas le mot gouvernement dans la 1244. Il n'y avait rien du tout. J'étais chargé de faire ça comment ? Moi, j'ai décidé de faire un gouvernement, mais je me suis fait haïr par tout l'ONU.
Tu l'as fait comment ?
Je l'ai fait. Gouvernement, j'ai décidé, parce que si j'avais les pleins pouvoirs, mais à l'ONU, vous n'avez pas les pleins pouvoirs comme ça. D'abord, il n'y en a pas, vraiment, il n'y a eu que moi qui ai eu ça, avec les 4 gros qui étaient avec moi, et qui étaient plus ou moins d'accord quand même. On échange tous les jours à l'époque, il n'y avait pas...
Il n'y avait pas les téléphones portables.
Non, mais non seulement pas. Si, il y avait un gros.
Attends, ne le laisse pas tomber le téléphone.
Les téléphones portables, mais il n'y avait pas d'Internet. C'était en 99.
On était encore au fax.
Et donc, vous étiez obligé d'envoyer, je ne sais pas moi, 25, 50, 100 dépêches à l'ONU qui décidaient avec vous. Et en particulier, pour faire un gouvernement, il fallait un pouvoir administratif au moins, législatif si possible. Moi, j'avais décidé d'inclure, de faire un gouvernement avec l'ONU, c'est-à-dire notre groupe, et les habitants du Kosovo, dont 3 ministres serbes sur 12. Et donc, il y avait des... Alors, on n'avait pas le droit de dire ministre, on n'avait pas le droit de dire gouvernement. Il faut être formel. Et donc, on disait co-aid. Les co-aid, l'aide, c'est la tête, aide. Tu vois, il parle pas anglais. Il parle anglais. Bon,
Corrède. Alors, il y avait un mec...
Mais c'est ridicule,
ce une dame, ça. Mais c'est pas ridicule, ça a marché, que tu dirais ridicule, on a fait la paix. Et donc, ils étaient responsables déjà de tous les départements ministériels, la communauté internationale et les locaux. Jamais ça s'est fait. Pourtant, c'est simple. Après, ils n'étaient pas toujours d'accord, fallait discuter tout ça, nuit et jour. Bon, mais ils étaient... Et donc, on avait inclus déjà dans le processus qui allait conduire, à un moment donné, et ce n'est pas encore fait, à l'indépendance. Parce que je ne sais pas combien de pays qui ont reconnu le Kosovo, 125 maintenant, je crois, j'en sais rien. Mais ce n'est pas fini. Tant que les Serbes et les Kosovars ne se parleront pas, il n'y aura pas de réelle substantial autonomie ou indépendance. Maintenant, il y a eu un rapport à Tissari, qui est un rapport des Nations Unies. Moi, je savais depuis le début que sans indépendance, il n'y aurait jamais d'entente. Mais je savais aussi que la seule façon d'obtenir une possibilité d'entente, c'était qu'ils soient tous dans l'Union européenne. Kosovo, etc. Pour le moment, il y a la Croatie, et il n'y aura le Kosovo et la Serbie que si la Serbie y consent, et ils, à mon avis, ils y consentiront dans peu de temps. Et on verra comment ça se développe. À l'intérieur de l'Union européenne, on peut faire le Brexit, mais en gros, on ne peut pas faire la guerre quand même. C'est vraiment très difficile. Imaginez, tout est possible, y compris
une espèce de guerre franco-anglaise.
Pardon ?
Y compris une guerre franco-anglaise.
Mais non, la franco-anglaise, ça, c'est les vieux conservateurs qui pensent à ça.
Oui, exactement.
Oui. Non, il n'y aura pas de guerre franco-anglaise, mais il y a une drôle de merde, en tout cas.
La parole est à vous, pour à peu près une demi-heure. Il y a des... Vous levez le doigt, que je vous repère.
Alors, monsieur et madame, merci infiniment.
Où êtes-vous ?
Oui, je suis là.
Ah oui ?
Alors, monsieur et madame, merci infiniment. Bravo, monsieur Kouchner, qui est tellement connu. Bravo pour ce que vous avez apporté. Mais moi, je dois vous dire que je suis moyennement contente de votre conférence, non pas sur ce que vous avez dit, mais j'aurais aimé que vous me fassiez une conférence « Les Balkans pour les nuls ». Parce que moi, je suis nulle. Et j'aurais aimé, dans un premier temps, monsieur, que vous montriez une carte en nous montrant les différents États, avec les différentes religions. Parce que là, en réalité, je n'ai rien compris. Mais rien.
Mais vous n'êtes pas forte.
Et j'aurais aimé avoir les Balkans pour les nuls. Et je crois que je ne suis pas la seule.
Ah bon ?
Parce que moi, je suis totalement nulle. Alors, vous avez parlé de Kosovo, de Bosnie, de Serbie, de Croatie, sans nous dire ce qui se passait. Donc, c'est vrai que j'ai retenu, à la limite, 4 noms. Mais sans rien comprendre. Merci.
Merci madame, je suis désolé que vous ayez rien compris, mais je ne recommencerai pas pour vous.
Voilà, merci beaucoup, madame. Madame est toujours la première à prendre la parole. Maintenant, madame, ça suffit.
Mais c'est bien, c'est normal, elle est véhémente.
Oui, elle est véhémente, maintenant elle se tait.
Alors,
deuxième question.
Bah, y en a
voilà,
pas première.
Là-bas. Bernard, là-bas.
Oui, bonjour, bonsoir même plutôt.
Bonsoir.
Oui, au-delà donc de l'éclairage que vous nous avez apporté, moi j'ai des questions par rapport à cette région, on va dire. Bon, s'il faut qu'il soit en Europe pour qu'il y ait la paix, ma foi, j'accepterai. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, ne serait-ce que sur l'aspect culturel et économique. Et j'ai effectivement beaucoup d'interrogations sur cette région que je ne connais pas bien moi non plus, parce que pour moi... Quand on est ensemble, c'est pour être plus fort et pouvoir construire ensemble. Et c'est vrai que quand je vois que cette région, au bout du compte, se désagrège en micro-États, je me demande où vont ces micro-États. Qu'est-ce qu'ils peuvent construire à leur échelle? Même si je suis d'accord avec vous que l'important, c'est qu'ils ne se tapent pas dessus.
Madame, je partage votre sentiment. Et ça serait mieux s'ils pouvaient être ensemble, mais ils ne peuvent pas. Alors... Oui,
ils
ne
peuvent pas parce
mieux,
que leur conflit de...
quelques années, pardon.
C'est que des conflits d'ethnie, de religion, de quoi ? De tout ?
Tout ça.
Tout ça.
Oui, tout ça ensemble. Il y a évidemment
donc,
il y a au moins trois religions.
La tolérance, ces gens-là.
Il y a au moins trois religions. Moi, je ne connais pas de guerre qui n'ait eu, sinon une origine, au moins une teinture religieuse
oui.
Au début.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Ben oui, moi aussi, donc on est d'accord, je suis sûr. Moi, je suis d'accord à votre question, seulement je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas y répondre, ce n'est pas moi qui ai fait la guerre.
Alors, est-ce que l'Europe pourra leur apprendre la tolérance ?
Je pense qu'en Europe, c'était un progrès formidable que nous avons, et je pense que nous avons échoué, nous, à faire l'Europe, qu'on ne s'y est pas attaché, que ceux qui ont le pouvoir, ceux, les multiples, les 500 000 présidents de France, ils ont voulu garder leur petit pouvoir, que nous n'avons rien sacrifié, que Cameron ait fait une connerie majestueuse qui restera dans l'histoire en provoquant pour des raisons personnelles et dans son petit parti le Brexit, ça c'est vrai. Mais enfin, ils sont en train de partir ou de pas partir, j'en sais rien. Mais nous avons échoué à faire de l'Europe quelque chose de profondément à la fois ressenti affectivement, ce qui était vrai pendant de longues années, on voulait faire l'Europe, mais malheureusement, on s'est pas donné les instruments nécessaires, tout le monde se méfiait, les gaullistes, Mitterrand, enfin, etc., etc. C'est comme ça maintenant, que voulez-vous? Alors, est-ce que ça peut repartir? Pour être un peu optimiste, comme vous souhaiteriez bien pouvoir l'être, moi, je pense que c'est très, très mal parti. Mais c'est pas foutu. On peut avoir le sentiment que l'Europe est absolument nécessaire pour affronter un certain nombre de crises qui sont là devant nous. Et j'espère un sursaut comme celui-là. Maintenant, nous devions nous entendre aussi avec les Allemands. Comme vous le savez, l'Allemagne, pour des raisons de générosité trop grande, a fait que le pouvoir de Mme Merkel est chancelant. Il n'est pas aussi décisif qu'on aurait souhaité qu'il soit. En tout cas, que le couple franco-allemand puisse donner de la force à l'Union européenne. Donc, j'espère me tromper profondément. La culture, c'est très joli, mais quand vous faites la guerre, la culture, c'est la culture de la guerre. Hein ? Alors, d'ailleurs, tout le monde s'enorgueillit de ses exploits. Hein ? Vous savez, on a passé très rapidement, on voit les couleurs différentes sur la carte, mais l'affrontement l'éclatement du monde entre les Byzantins qui se créent, les barbares qui arrivent, enfin tout ça c'est une succession presque, j'allais dire quotidienne, mais en tout cas une explosion de guerre pendant 500 ans, plus que ça, un millénaire, et c'est pas fini. Regardez ce qui se passe en Turquie. Alors oui, c'est mieux d'être à plusieurs. Cette unité est tout à fait souhaitée. Est-elle automatique? Non. Pouvons-nous la garantir de l'extérieur? Non. Nous essayons. Nous avons essayé aussi bien en Bosnie. Ça s'était bien passé d'une certaine façon. Catherine a raison. Au début, Slovénie-Croatie, encore que la Croatie et la Serbie se sont affrontées très durement. Après, c'était l'éclatement total. Est-ce que ça pouvait durer sans éclatement? Non, la preuve, c'est que ça a éclaté. C'est pas moi. Moi, je n'ai pu constater que... Voulez-vous que je vous dise un truc? Moi, pendant mes 2 ans de Kosovo, je préférais me saouler la gueule avec les Serbes qu'avec les Kosovars.
Pardon?
Oui.
Tu veux bien préciser?
Non, je ne veux pas préciser. J'étais bien mieux. Il y avait une atmosphère que je comprenais mieux, qui était plus proche de moi, qui, etc. Mais c'est eux qui foutaient les bombes. Et donc, la culture, c'est très joli. Vous pouvez vous sentir beaucoup plus proche de la culture bosniaque. Le président de la République, que j'ai eu l'honneur d'accompagner à Sarajevo, lui... Quand on lui demandait pourquoi il était tellement pro-serbe, il répondait très clairement, parce que dans les camps, il s'est évadé 3 fois, Mitterrand, des camps allemands, et il disait très bien, ceux qui sont arrivés, les plus malheureux et les plus isolés, et les derniers, ce sont les Serbes. Et il avait une espèce de sympathie historique et spontanée que je comprenais très bien. Simplement, il a dit à Mladic et Karadžić, vous êtes des cons. Je n'avais pas dit ça. Il a dit, vous avez tort. Vous savez, les missions de la paix, vous ne choisissez pas la paix. Hein. Vous ne choisissez pas le terrain de vos exploits.
Hein. C'est sur ce saouler la gueule, ça veut dire quoi, juste au juste?
Ça veut dire boire un coup.
Ah, c'est pas pareil, ça.
Ah, ben ça dépend combien tu bois. Tu sais, il y a des moments, dans les guerres que j'ai fréquentées, tu as envie de boire un coup. Hein. Nous avons fait vraiment... L'ONU, ce n'est pas facile. Hein. Les gens n'ont pas envie de mourir quand vous envoyez des soldats de l'ONU. Hein. Ce n'est pas leur truc. Ils meurent quand même, d'ailleurs, souvent.
D'autres questions, s'il vous plaît ?
Oui,
oui, monsieur.
Bonsoir à tous. Monsieur
Costner. Où êtes-vous ?
Allez-y, vous pouvez...
Il n'a pas le micro.
Ah, pardon, l'instant. Vous n'avez pas de micro ? Oui, moi, j'entends.
Non, 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 monsieur, non, 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 parce que c'est enregistré, figure-toi. Alors, où est le micro ? Où est la question ? Où est le micro, pour l'instant ?
Il est là-haut.
D'accord, oui.
Mais quand tu dis que c'est pas noir, l'amphithéâtre Lévi-Strauss,
tu trouves qu'il est noir, toi ?
Complètement.
Bonsoir à tous. Je suis là. Monsieur Kouchner, je vous remercie de votre conférence. Je me sens particulièrement attaché à Sarajevo et ma question est très simple. J'aimerais savoir quel a été votre regard sur la ville de Sarajevo lors de votre première visite, sur ses aspects culturels, religieux, et voilà, je vous remercie.
Mon sentiment personnel ?
Lors de votre première visite à Sarajevo, comment vous l'avez perçu ?
La première visite ?
Les choses qui vous ont marqué le plus ?
Les choses qui t'ont marqué le plus dans ta première visite à Sarajevo ? Donc...
C'est vieux, hein ? Écoutez, moi, ma première visite à Sarajevo, c'était la guerre. Ma dernière visite à Sarajevo, c'était plus la guerre, et Sarajevo est reconstruit. Ça ne veut pas dire que tout va bien, sûrement pas. Mais Sarajevo détruite, c'était un drôle de spectacle. Et les gens sur la Sniper Alley qui se faisaient un par un dégommer et qui mouraient, et l'hôpital, ça je connais. Maintenant, vraiment, pratiquement, tout est reconstruit et même il y a de nouveau une architecture et des bâtiments neufs qui sont séduisants. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va bien du tout et surtout, ça ne veut pas dire que tout va bien en dehors de Sarajevo, dans le reste de la Bosnie. Pour deux raisons. La première, mais je rends grâce et hommage à mon ami Richard Holbrooke, qui a réussi l'impossible avec les accords de Dayton. Il a finalement réussi un truc très difficile avec ce roulement de responsabilité entre les trois communautés, très difficile à appliquer, mais quand même, c'est la paix. Et puis, deuxième chose, plus de la moitié des réfugiés sont venus. C'est quand même pas mal, mais c'est pas assez. Il faudrait mieux penser, madame, que c'est revenu à une situation, comment dirais-je, vivable, et qu'après tout, ils rentrent chez eux. Non, la guerre a été tellement dure, il y a eu tellement d'acharnement meurtrier de la part de toutes les communautés, que je comprends qu'il y en a qui parce qu'ils soient parvenus, et donc c'est pas fini. Et puis, économiquement, ça marche pas. L'Europe soutient beaucoup, c'est pas assez. C'est pas le paradis, c'est pas parce qu'on a fait la paix, mais c'est mieux que la guerre.
Est-ce qu'elle peut repartir ?
Je dirais que la Bosnie a beaucoup plus de chances, malgré la complexité. D'abord, il faut rendre hommage aux Serbes. Ils ont toujours refusé que la Republika Srpska, c'est-à-dire la partie serbe de la Bosnie, soit jointe à la Serbie. La communauté internationale leur faisait pression là-dessus en disant « vous ne pouvez pas faire moi ». Mais ils ne l'ont pas fait. Et dans ces conditions, même si, selon mon point de vue, qui n'est pas forcément le bon, la Republika Srpska, c'est ce qui marche le mieux. La Croatie, ça marche pas mal. Mais la partie croato-bosniaque de la Bosnie... C'est pas terrible, même si Sarajevo a l'air tout à fait... Elle est en meilleur état. Alors, vous savez, à Sarajevo, il y a des rencontres, quand même. Il y a des gens qui, à travers les communautés, essaient de faire un pont. Ça, c'est très positif. Non. C'est mieux.
Avez-vous votre micro ? Monsieur, non, toujours pas. Est-ce qu'on peut apporter un micro à ce monsieur, s'il vous plaît?
Mais on ne veut pas qu'il parle.
Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas son micro?
Ben parce que c'est comme ça.
Non, ça fait très longtemps qu'il attend. C'est ce monsieur-là, ah ben, et c'est moi qui décide.
C'est parce qu'on ne les a pas vus, mais aussitôt après, vous parlez.
Je suis désolé, monsieur.
Merci, camarade.
Camarade, toi-même.
Voilà, exactement.
Bonsoir. Je voulais avoir votre regard sur l'invitation du président Poutine récente.
Aujourd'hui.
Par le président de Serbie, tandis que la foule gronde dans les rues. Est-ce qu'il n'y a pas des symptômes inquiétants par rapport à ce que vous évoquiez comme étant la préservation à tout prix de la paix en Europe?
Je vous demande pardon, monsieur. La foule gronde dans les rues?
Ah ben absolument, oui. J'ai regardé France 24.
Oui.
Et on voyait bien qu'il y avait une contestation extrêmement vive contre le président de Serbie. Et
mais pendant à ce Belgrade.
Et pendant ce temps-là, Bruxelles fait preuve d'un étonnant mutisme.
Je suis loin d'être le représentant des Nations Unies.
Non, bien sûr.
Ne prenez pas ce que je vais dire pour sérieux. Bon, je vous donne mon opinion. C'est ce que vous me demandez, camarade.
Oui, absolument. Bien.
Bon.
En toute subjectivité.
Moi, je connais pas mal Poutine. C'est pas un marrant.
Ça n'a pas l'air.
Mais, à mon avis, quand même, il faut faire la paix avec ses voisins. Je n'aime pas la façon dont il a piqué la Croatie, mais je savais que c'était quasi inévitable, et j'aurais pensé, si j'avais été responsable, mais...
Tu veux dire la Crimée, peut-être?
Oui. La Crimée, j'ai dit quoi?
La Croatie.
Ah ben non, la Croatie, il ne l'a pas encore piqué.
La Crimée. C'est pour ça que je me permets de rectifier.
Ah, pardon. Oui. Attends, il va répondre. Et donc, il aurait fallu parler à ce moment-là avec lui en disant « C'est pas comme ça qu'on fait, on veut pas, on n'est pas du tout d'accord, tout à da, 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 mais enfin bon, c'était le moment. » Ne parlant pas avec lui et accréditant, comme c'est souvent le cas en diplomatie, c'est-à-dire qu'on ment, on a dit « Quand vous rendrez la Croatie et les provinces de l'Est, c'est pas
non,
vrai. »
Non, la Crimée.
Oui, la Crimée et les provinces de l'Est de l'Ukraine, c'était pas vrai. Il fallait le faire, et je pense que ça aurait évité bien des massacres. Et tout le monde s'en fout maintenant, mais toutes les semaines et tous les jours, il y a en Ukraine des gens qui meurent en affrontant à l'intérieur d'une famille, parce que c'est toujours comme ça. Et les partisans de la Russie et les partisans de l'Ukraine. Donc, je ne suis pas en sympathie avec ces méthodes. Il n'empêche que c'est avec lui qu'il faut parler. Et c'est avec lui, et éventuellement c'eût été contre lui, qu'il fallait faire l'Europe. Maintenant, c'est le roi du Moyen-Orient, Poutine. Si vous voulez jouer un rôle, comme apparemment Emmanuel Macron, notre président de la République en ce moment, veut continuer à le faire, alors qu'on n'en avait plus, il faut parler avec Poutine. Maintenant, la façon dont il a été accueilli aujourd'hui, je pense que les gens en ont marre, par les gens, je ne sais pas quelle est la proportion, parmi les Serbes et à Belgrade, mais il y en a qui pensent que l'attitude jusqu'au boutique de M. Dodic n'est pas bonne. Mais je sais que nous, notre attitude ici n'a pas été bonne, puisque vous savez, au moment du grand barnum qu'on a fait place de l'Étoile, avant que les Gilets jaunes se mettent à faire leur barnum à eux, on a mis le président serbe, pas avec les grands, et on avait mis Sači derrière. Oui, ça, c'était une belle connerie diplomatique.
Derrière qui?
Oui, aussitôt derrière Trump.
Il n'y a plus de chef du protocole.
Non, il n'y a plus de chef. Il y a un chef du protocole, mais il a fait une belle connerie. Donc, depuis, alors qu'il y avait des pourparlers entre les Serbes et les Kosovars, fréquents, Et ça marchait pas mal. Ils ont été interrompus. Ils reprendront. Mais enfin, c'était pas bien de faire ça. Et ils reprendront, et je pense que ça va s'arranger. Mais pour ce qui concerne directement Vladimir Poutine, je pense qu'on ne peut pas éviter d'avoir de meilleurs rapports avec lui. Même si on approuve, et même si on désapprouve, et surtout si on désapprouve, il ne faut pas le laisser tout seul. Nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On pensait que l'OTAN nous protégeait, et c'était normal que l'Amérique nous protège.
Et ça ne l'est plus. Hein ? Eh ben, c'est fini.
Pratiquement, c'est fini.
Monsieur, avec toutes mes excuses.
Je vous en prie.
Admirable.
N'est-ce pas, hein ?
Monsieur.
Madame, monsieur le ministre, je vous remercie pour cet exposé. Je dirais même que personne d'autre que vous aurait pu régler ce problème, parce que la Bosnie, la Serbie, la Croatie, c'est très complexe. Et c'était... vraiment un travail titanesque, vraiment, vraiment, je vous rends hommage. D'abord, c'est dû à votre personnalité, je ne suis pas là pour vous jeter des fleurs, mais je pense que vous étiez sur le terrain et je ne vois pas quelqu'un d'autre, même votre ami Brooke ne pouvait pas résoudre ce problème. Il y a trois... Absolument. Il y a trois questions que je voudrais vous poser, si vous permettez, monsieur le ministre. La première, c'est... la position du général Mourian, quand il y a eu cette espèce de massacre où la communauté internationale lui a demandé à un moment de se désengager, ce qui, à mon avis, est une grande erreur. La seconde, c'est l'innocence...
Quel est le nom du général, monsieur ? Voulez-vous le dire plus fort ?
Mourian, celui qui était en charge de Kosovo, le général français, qui par la suite est...
Ah, Mourian
qui est devenu candidat de souverainiste. On avait un officier supérieur.
Non,
Morillon.
Non, le général, c'est un colonel d'ailleurs. Oui. Il s'appelait Morillon. Mais Morillon, c'était pas. Morillon a été jusqu'à Srebrenica, oui. Oui. Ah, oh, bah oui, d'accord. Oui. Mais il est parti après, je savais ça. Bon, tout à fait. Si j'ai compris, c'était Morillon. Oui,
voilà. Et la seconde, c'est l'acquittement du président serbe qui est mort à La Haye, voilà, parce que on s'est rendu compte que on a raconté beaucoup d'histoires sur la Serbie qui n'étaient pas justes. Et la troisième, c'est dire à madame que l'Europe n'a pas de leçon de tolérance à donner. Vous avez eu l'honnêteté intellectuelle de le préciser qu'il faudrait que d'abord que les Européens soient tolérants entre eux et qu'il faut cesser de penser que l'Europe a des leçons à donner. Elle n'en donnera jamais, puisque nous avons pensé à une Europe économique avant de penser à une Europe politique. Et moi, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous parce que j'ai une lecture un peu plus complète que je l'avais avant d'arriver. Et c'est pour cette raison que je vous rends hommage et je vous dis, vous honorez la France. Et merci.
Merci à vous, monsieur. Écoutez, il y a trois questions. La première, Morillon a été courageux, et il est courageux. Morillon a fait tout ce qu'il pouvait, c'est-à-dire qu'étant basé à Sarajevo, il a pris un véhicule, toujours les mêmes, de l'avant blindé pour aller dire aux gens, c'était à Vukovar d'ailleurs, hein, qu'il ne fallait pas qu'il fuit et qu'il garantissait au nom des Nations Unies, bien sûr, mais lui, général français, bon général français, ils ne sont pas tous bons, hein, il a dit qu'il était là et qu'on pouvait compter et il a essayé d'arrêter la fuite. Malheureusement, pour la suite des choses, il était en poste pour 6 mois, si je ne m'abuse, en tout cas, il n'était plus en poste quand le massacre a eu lieu. J'ai eu l'occasion, j'aime beaucoup Morillon, que j'ai en plus vu. Après, il a été député européen. Je trouve que c'est un type très, très loyal et très franc, avec une belle pensée. Malheureusement, il n'était plus en poste au moment où il aurait fallu que l'ONU réagisse de façon solide et militaire. Et le reste n'a pas été fait. La suite d'une promesse quelqu'un qui était responsable dans la mission. Deuxièmement, quoi ? Parce qu'après, la troisième, c'est sur Laurent Pouilly. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit ? Pardon ? Ah oui. Le président quoi ?
Serbe.
Ah oui, 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 pardon, mais je ne veux pas répondre à cette question. Vous voulez pas, avec l'ouverture dont vous avez témoigné, je ne peux pas penser une seconde quand vous dites qu'on a assassiné Milosevic à La Haye. Il est mort, que vous voulez que je vous dise, c'est pas de sa faute, c'est pas la mienne, mais il est mort. Non, on ne l'a pas assassiné, donc...
L'a acquitté.
Mais comment on l'a acquitté ?
C'est ce que dit monsieur.
Mais il n'a pas été acquitté, Milosevic. Il n'a pas été jugé. Il est mort dans sa cellule, sans acquittement et sans jugement. Et donc, après, on n'a pas pu le faire, non. Enfin, si je ne m'abuse, hein. Bon, j'ai un copain là qui, sur qui je compte. Mais oui. Donc, monsieur, n'exagérons pas. Il est mort. Il y a eu des rumeurs en disant qu'il s'est suicidé ou pas. J'en sais rien, je crois pas. Mais j'en sais rien. Très surveillé. Hein, là, mais il n'a pas été acquitté, monsieur, pas du tout. Il n'a pas été jugé, il est mort avant. Alors, ce qui a été acquitté, c'est le président Gbagbo. Maintenant. Ah oui,
Mais il y a un appel, donc ce n'est pas fini.
Oui, enfin, en gros, quand même. Hein. Non, ben, c'est autre chose. Gbagbo a été acquitté, il est sorti. Blé Goudé, le chef des milices, a été acquitté. Moi, personnellement, je trouve ça un peu rude. Mais enfin, bon. Vous savez que la critique de tous les Africains, c'est de penser que la Cour pénale internationale ne fait des choses que contre l'Afrique. Ce qui n'est pas vrai, parce que la première des choses qu'elle a fait, c'était justement Mladic, Karadžić et Milosevic. Quand même. Bon. Voilà. Troisième chose.
L'Europe.
Bon. Je partage votre vision historique sur l'Europe. Mais je ne partage pas votre vision pessimiste et péjorative sur ce qui aurait dû être l'Union européenne. Parce que ça, c'était quand même un mouvement extraordinaire que nous aurions dû prendre en charge. Et nous ne l'avons pas fait, maintenant, une périclite. Mais l'Union européenne, c'est le modèle de ce que, non seulement... C'est ce qu'avait voulu faire Tito, je vous signale, à sa petite échelle. C'est ce qu'il faut faire, mais ça marche pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe en Allemagne. Vous savez, c'est dur. Hein. C'était une très belle idée. C'était l'aventure de notre temps.
Et ça n'est pas terminé.
Et c'est pas terminé, mais non, j'espère que non. Bon. Enfin, en tout cas, l'Union européenne, pour ce qui concerne les Balkans, a été quand même assez costaud et bonne. Ça n'a pas suffi à ce que ce soit fini, bien sûr. Enfin, quand même, c'est mieux. Alors ?
Oui, la dernière question hein, pour monsieur. Ah, il y en a une autre là-bas. Oui. Attendez, il y en a une autre là-bas, qui a quelqu'un qui a le micro tout à fait sur la droite.
Vous m'entendez ? Oui, une question sur l'implication de la communauté internationale. On lisait à l'époque que... l'absence de consensus avait pu retarder les choses. Où, est-ce que c'est vrai et quels étaient
sur la droite, tout à fait.
Les acteurs impliqués dans le conflit ? Donc il y avait la France, les États-Unis. Quels étaient les acteurs européens qui s'impliquaient et pour quelles raisons ?
Écoutez, c'est une question très difficile parce que il faut une interprétation, une vision de l'histoire et surtout des événements récents dont on peut penser que l'Union européenne aurait contribué à gommer, aurait contribué à faire que... Mais nous n'étions pas tous d'accord. Il y a une règle de l'unanimité sur les grandes décisions dans l'Union européenne. Pas sur toutes les décisions, il y a une codécision, maintenant il y a le Parlement, ça s'améliorait un peu, mais pas assez. Et donc cette règle... Ben, vous savez l'histoire, le général de Gaulle voulait... une Europe des États, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Par rapport à une Europe qui aurait aboli ses frontières, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, les centaines d'années d'affrontements européens, c'est là où on n'a pas de leçons à donner. Mais vous non plus. Vous êtes autant battus que nous. Donc, les centaines... L'Europe, c'est le modèle de la guerre. On s'est battu tout le temps. Pas seulement la France et l'Allemagne, pas seulement la France et la Grande-Bretagne, pas seulement la Grande-Bretagne et l'Allemagne, pas tout le monde. On a commencé à perdre, Napoléon a commencé à perdre en Espagne, etc., etc., etc. Nos rapports avec l'Italie, tout ça. Donc ça a été dur. Il a fallu cet énorme choc et la Shoah pour qu'on dise « ça suffit comme ça ». Mais ce n'est pas en disant « ça suffit comme ça » qu'on faisait dans le cœur des gens effacer la mémoire, les sentiments, etc. Donc, je me souviens de ce que disait François Mitterrand. Helmut Kohl voulait que très vite, il y ait à la fois la Slovénie, mais aussi, après tout, que ça aille plus vite, que les nations se séparent, et en particulier les nations qui avaient formé la Fédération yougoslave. Et Mitterrand était beaucoup moins pressé, même s'il pouvait penser que... Mais vous savez, Mitterrand, j'ai relu cet après-midi, par hasard, une déclaration qu'il a faite en Allemagne de l'Est, pour dire, il y a encore beaucoup... 3 semaines avant la chute du mur de Berlin. Enfin, moins de 2 mois, je pense que c'est 1 semaine. Rien. En disant, il y a un avenir très important entre l'Allemagne de l'Est et la France et qui va continuer. Personne ne savait à ce moment-là que le mur allait tomber.
Ah si.
Non, si, personne si. Ne savait. Personne ne savait, en tout cas, ni Védrine, ni Mitterrand. Et c'était leur affaire, ils avaient une autre analyse. Il y avait des réticences terribles. Il y avait plein de gens qui disaient « Mieux vaut 2 Allemagnes qu'une seule, parce qu'une seule, on sait ce que ça donne ». Alors, souvenez-vous, dans cette période, j'y étais, vous aussi. Bon, c'était pas facile. Mitterrand et Kohl s'étaient serrés la cuillère. Bon, ils avaient en commun beaucoup de choses. Mais ça n'empêchait pas tous ces relances historiques. Donc, quand vous décidez, si vous avez besoin de l'unanimité, ben, l'unanimité... C'est très difficile à obtenir. Qui aurait pu penser, franchement, que M. Cameron, qui n'était pas un grand intellectuel... Hein,
il n'est pas mort. Hein.
Je sais, mais il le mériterait. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est tuer l'Angleterre. Ben, c'est grave. Pour gagner ces élections qu'il avait quand même déjà gagnées dans le Parti conservateur, promettre un référendum... en disant que c'était ça le malheur, c'était l'Europe, enfin, l'Angleterre dans l'Europe, etc., c'est criminel. Regardez ce qui se passe. Bon. Et en tout cas, pour nous, toutes les opérations militaires, c'était l'Angleterre et la France et l'Angleterre. 50% du budget, 50%. Qui aurait pu penser que Cameron avait besoin de faire ça? Il n'avait pas besoin du tout. D'ailleurs, il est parti... comme un malheureux aussitôt, le lendemain. Quand on pratique la politique, je ne dis pas ça pour notre président actuel, il y a des trucs qui ne s'inventent pas. Il faut savoir mettre ses mains dans des matières pas toujours commodes.
Comme de se saouler la gueule avec des Serbes.
Comme ?
De se saouler la gueule avec des Serbes.
Mais se saouler la gueule avec les Serbes, c'était mon boulot. C'était moi qui... C'était pas pour l'ONU que je faisais ça. C'est que j'avais plus de sentiments avec un certain nombre de gens qui étaient théoriquement et politiquement opposés à ma mission. J'allais pas au nom de l'ONU avec un drapeau. Bon, un coup. En plus, les Schlimovic, il faut avoir envie. Hein.
On va être obligé d'arrêter. Il y a encore une dernière question.
Mais quoi, ferment ici?
Non, oui, il faut, oui, exactement, tu ne crois pas si bien dire, il ferme. Moi, j'ai mission d'arrêter
moi,
maintenant.
Moi, je croyais que l'histoire ne fermait pas.
Attends, la dernière question, il l'a attendu très longtemps.
Je me suis trompé là aussi. Elle ferme, l'histoire.
Allez-y, monsieur, bon. Vous avez poireauté assez longtemps.
Et comme j'ai devant moi une carte...
Vous ne pouvez pas faire ça.
Oui, c'est bon.
Oui.
Et j'ai une carte devant moi avec beaucoup de couleurs et je sais que vous connaissez bien ces pays, ces brasiers-là. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite analyse ou votre avis, en tout cas, à ce qui concerne la Macédoine et la Grèce actuellement?
Youpi, ça c'est encore autre chose, ça.
Alors après, pour expliquer la complexité des Balkans, vous voyez, il a bien fait de poser sa question. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'histoire pèse terriblement, c'est vrai. La Macédoine, c'est la Grèce, c'est Alexandre de Macédoine, blablabla, blablabla. D'accord.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça.
Mais c'est bien ce qu'a fait Tsipras. C'est très bien ce qu'a fait Tsipras. Et Tsipras, j'ai beaucoup d'admiration pour ce type.
Moi aussi.
C'était un gauchiste absolu. Il a fait voter le référendum sur, comment dirais-je, une perspective gauchiste. Et après, il a fait le contraire. Formidable. Et il avait une grande ennemie, Madame Merkel. Ils sont copains comme cochons. Tsipras est un mec très bien. Il a provoqué, et le ministre de la Défense a aussitôt démissionné, pourquoi pas, bon, appelé la Macédoine du Nord, qu'est-ce que vous voulez? Bon, historiquement, c'est pas vrai, d'accord. Mais franchement, c'est mieux qu'il y ait, parce que la Macédoine est aussi candidate à l'Union européenne. Et évidemment, il y aura, je vous garantis, je peux me tromper complètement, hein, ça m'est arrivé souvent, je vous garantis, puis ça se passe le contraire. Bon. Mais je pense que le Kosovo et la Serbie, je ne leur demande pas de s'aimer. Je n'aime pas. Comme ça. Mais je pense qu'ils arriveront à un accord suffisant pour rentrer dans l'Union européenne. Malgré ce que je pense de l'Union européenne, c'est-à-dire, c'est très fragile. Oui. Mais là aussi, je pense que c'est mieux que la Macédoine, le Monténégro, etc. Vous pouvez pas faire rentrer seulement la Croatie. C'est pas possible, c'est pas juste. Donc, il y aura... Et je pense que la Macédoine du Nord, ça va. La Grèce, la Macédoine du Nord, ça, la Macédoine, c'était grec, d'accord. Vous faites un compromis avec l'adversaire, faites pas un compromis avec vos potes. Hein. Sinon, c'est facile.
Je crois qu'on peut remercier beaucoup Bernard Kouchner.
Ça, c'est un réflexe communiste, tu sais, donc il faut applaudir.
Ça fait rien. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous est mercredi prochain à 18h30 dans le même lieu avec Jacques Rupnik qui nous parlera du printemps de... Rupnik. Oui, c'est bien. Qui va nous parler du printemps de Prague.